manière dont c'est raconté dans les actes, c'est pour mettre en évidence la gratuité de l'œuvre de Dieu dans l'Église primitive. Alors voilà comment nous avons, jusqu'à mieux informer en tout cas, voilà comment nous avons divisé ces passages, cette troisième section. De 11-19 à 11-30, donc c'est la fin du chapitre 11, la parole, bonne nouvelle du Seigneur Jésus à Antioche. Il faut toujours, dans les Actes des Apôtres, situer dans une ville déterminée. On est à Antioche. Mais Antioche, c'est déjà l'en dehors de la terre promise, hein, de la terre d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer à Antioche? L'œuvre de la grâce. Il va falloir la faire. Donc, si vous voulez, traduire maintenant dans les Actes des Apôtres, acte 11-19 à 15-35. Nous pouvons faire la même chose. Un casier pour parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Action. Un deuxième casier et puis un centre. Donc, on parle d'abord de la révélation. Il s'agissait d'une révélation, la triple révélation. Il s'agit d'une révélation. Mais révélation de quoi? Eh bien, on va révéler la gratuité, donc la grâce, révélation de la grâce de Dieu. Et effectivement, on va nous montrer à Antioche comment cette grâce agit, dire, en dehors des hommes. Il s'agit de voir comment on va se mettre à croire à Antioche. Jusqu'ici, on a cru à Dieu, mais dans un milieu qui était juif d'origine. Et puis on a eu une petite entorse, puisque à Césarée même, mais c'était quand même un centurion qui priait et qui faisait des aumônes, mais jusqu'ici, on est resté en milieu juif. À part donc l'histoire du centurion. Donc on va voir l'action de la parole. Ce n'est plus le Fils, mais la parole, nous savons qu'elle désigne la présence de Jésus. Puis nous allons voir Dieu intervient. Nous allons voir quelle est son œuvre de Dieu. Et là, nous allons nous retrouver à Jérusalem, puis à Césarée. On va faire une sorte de retour en arrière. Et puis alors, on va voir l'œuvre de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, et je mets ici œuvre. Le terme œuvre, il revient presque uniquement dans ces régions, dans ce texte, est très important. Premièrement, il fait un rapport avec le début du chapitre 8. De nouveau, nous avons, depuis là, il reprend ce dont on avait déjà parlé, et il va continuer en parlant d'une réalité nouvelle, c'est-à-dire l'ampleur. Quant à ceux donc qui avaient été disséminés à cause de la tribulation arrivée sur Étienne, ils traversèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche. Ne parlant la parole à personne sinon seulement des Juifs. On retrouve, si vous voulez, hein, ce cercle juif. Là-bas aussi. Quelques-uns parmi ceux qui étaient des hommes chypriotes et cyrénéens, lesquels, étant venus à Antioche, parlaient aussi à la place des Grecs. Ce sont des gens qui parlent grec, donc ils parlent aussi à la place. Annonçant la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus. Voilà, la parole est indiquée en termes clairs, le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux. La main de l'action. Et nombreux fut le nombre qui, ayant cru, se tourna vers le Seigneur. Or, la parole à leur sujet fut entendue aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem. On téléphone à Jérusalem pour voir le problème. Et vous la voyez là-bas, en avance, jusqu'à Antioche. Ce n'est qu'une vieille légende, c'est Barnabas. C'est une même génération. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, lequel s'étant rendu là et ayant vu la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez la grâce, vous allez la voir. Ayant vu la grâce de Dieu, il se réjouit et conjurait tous de demeurer attachés sans cesse au Seigneur par la proposition de leur cœur. Et ça va, d'accord, ça va bien, continuez. Parce qu'il était un homme bon et plein d'Esprit Saint et de foi, tient lui aussi. Il insiste toujours sur cette qualité parce que c'était celle qui était toute seule.
Barnabé, chouchou de Saint-Luc.
Mais, pardon, il était
le chouchou de Saint-Luc.
Le chouchou de Saint-Luc. Il était un homme bon et plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule nombreuse fut ajoutée au Seigneur. Or il sortit vers Tarse pour être à la recherche de Shaoul, et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Donc Shaoul qui avait été mis en réserve comme on a vu. Or il leur arriva, ce verset 26 est important, d'être rassemblés aussi un an tout entier dans l'église, travail pendant un an là-bas, et d'enseigner une foule nombreuse, et il arriva que les disciples, pour la première fois à Antioche, prirent le titre de chrétien. Le terme chrétien, très curieux, peut être révélé en songe. Le terme qui est utilisé ici. Qui est-ce qui a donné ce titre de chrétien? Ce n'est probablement pas les chrétiens eux-mêmes. Est-ce que ce sont des juifs? Il ne semble pas. Plutôt donc des romains. Disons, ce sont les disciples du Christ. Jusque-là, on les appelle des nazaréens, ou bien des adeptes de la foi. Pendant ces jours, des prophètes descendirent de Jérusalem vers Antioche. Et s'étant dressé, l'un d'eux, du nom d'Agabus, signifia par l'esprit qu'il y allait avoir une grande femme sur l'univers tout entier, laquelle arriva sous Claude, le Claudius. Or, les disciples fixèrent, mais de fait, il semble que cette famine fut endémique et qu'elle dura plusieurs années. Or, les disciples fixèrent chacun d'eux, selon qu'il y avait des ressources, de faire un envoi en service pour les frères habitants en Judée, ce qu'ils firent aussi, les ont envoyés auprès des anciens par l'entremise de Barnabas et de Shaoul. De quoi s'agit-il dans ce passage? Antioche reçoit la parole de Dieu et envoie un convoi humanitaire.
Pour frère.
En réponse. Pardon?
Au frère. Lesquels?
Au frère de Jérusalem. Donc, il y a ce qu'on veut bien marquer ici, c'est le rapport. On reçoit la parole et en même temps cette parole fait agir et rend fraternelle. Une communauté, où il y avait des juifs, mais il y avait aussi des païens. Et la parole est enseignée aux païens. Et puis on vous donne un titre, la naissance d'un titre, qui va devenir un titre universel. En fait, le mot chrétien veut dire messier ou messianique. Pourquoi c'est très étonnant que les juifs aient donné ce nom-là aux chrétiens, hein, messier. C'est un terme qu'ils ne veulent pas donner encore aujourd'hui. Hein.
Ou bien par dérision.
Quoi?
Par dérision, ça peut être.
Non, voilà. Donc, par dérision. C'est difficile. Il me semble que c'est difficile. Parce qu'appeler les adeptes de Jésus des messiers ou des messianiques, ça veut dire que ce sont ceux qui revendiquent d'être les véritables adeptes du Messie. Aujourd'hui encore, hein, quand les juifs veulent parler de chrétiens, hein, dans leur langue, dans leur langue hébreu, ils ne disent jamais des Messichim ou quelque chose comme ça. Ils disent toujours Nozrim, des Nazariens. C'est le terme que vous utilisez. Donc voilà l'action de la parole. La parole agissante. Et cette parole qui atteint aussi des non-juifs. Or, dès ce moment-là, le roi Hérode jeta les mains pour les maltraiter sur certains de ceux qui étaient issus de l'Église. De nouveau, l'Église, Jérusalem. Or, il s'y est périr par l'épée Jacques, le frère de Jean. Ayant vu que cela était satisfaisant pour les Juifs, il y ajouta le fait de se saisir aussi de Pierre. Or, c'était le jour des Azymes. Le jour des Azymes, c'est le jour de Pâques. Hein? Hein? Le jour des Azymes, c'est le premier jour de Pâques. Ayant aussi appréhendé, il le mit en prison. L'ayant livré pour veiller sans cesse sur lui, à quatre groupes de quatre soldats. Quartier de haute sécurité. Décidant de le conduire au peuple après la Pâque. Non, mais c'est intéressant de voir que la passion de Pierre se situe à la même époque que la passion de Jésus. Bref. Et donc que nous trouvons dans un contexte pascal. Quant à Pierre, il était gardé dans la prison. Or, une prière s'élevait intensément vers Dieu de la part de l'Église à son sujet. Or, quand Hérode allait le faire comparaître, cette nuit-là, Pierre s'endormait était dormant entre deux soldats, se trouvant lié de deux chaînes. Et les gardiens devant la porte gardaient la prison. Hein, c'est vraiment haute sécurité. Hein. Et voici, un ange du Seigneur surveille, une lumière brilla dans la cellule, ayant frappé le flanc de Pierre, il le réveilla, disant, reste-toi promptement. Il le ressuscite. Reste-toi. Il le réveilla et lui dit, reste-toi. Et ses chaînes furent de ses mains. Pour l'ange dit à son adresse, sais-toi et chausse tes sandales. Les rincins, sandales aux pieds, et le voilà parti pour la Pâque. Mais c'est vrai, nous sommes en contexte de Pâque, et nous voyons les Israélites qui étaient en prison, qui étaient en esclavage en Égypte, et qui doivent faire la Pâque, se cindre, prendre leur sang dans le pied, et partir pour la liberté. La liberté. Et Pierre vit cela. Il vit la libération d'Israël au moment où on fête la libération d'Israël, c'est-à-dire la fête de Pâques. Il fit ainsi. Il lui dit, revêt ton manteau et suis-moi sans cesse. Et il t'en sorti, il le suivait. Et il ne savait pas que c'était vrai ce qui arrivait par l'ange. Il pensait regarder sans cesse vers une vision. Oh, mais il était habitué, vous comprenez. Or, ayant traversé une première garde, et puis une deuxième, il vint à la porte de fer, celle qui porte vers la ville, laquelle leur fut ouverte de son propre mouvement. Étant sorti, il vit par devant une seule rue, et aussitôt l'ange se retira de lui. Il a fait son travail, hein, il a sorti de la prison. C'est comme les Israélites, l'Égypte. Voilà. Et Pierre, revenu à lui-même, dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur envoya son ange, et qu'il me retrancha de la main d'Hérode et de toute la tente du peuple des Juifs. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur envoya son ange, qu'il me retrancha, qu'il me délivra en quelque sorte, de la main d'Hérode et de toute la tente du peuple des Juifs. Pour savoir ce qui se passe à ce moment-là, là, il est important d'aller voir l'histoire. Si je trouve le passage. À Jérusalem surgit un fait politique santé, c'est pas vrai. Après 40 ans de vacances du trône, Rome a nommé un nouveau roi, Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand, fils d'Aristobule, mort assassiné par son frère Hérode Antipas. Il était l'ami de Caligula, et quand celui-ci devint empereur en 37, il fit passer Agrippa Ier de la situation de prisonnier à celle de roi. Caius Caligula lui mit le diadème sur la tête et le nomma roi de la tétrarchie de Philippe, en lui faisant cadeau de celle de Lysania. En échange de sa chaîne de fer, il lui donna une d'or de poids égal. Ce passage est repris à Flavius Josèphe. Flavius Josèphe nous raconte cette histoire. Mais elle est intéressante.
Ça a été pas dans son...
387. Son oncle et beau-frère Antipas, jaloux, fit le voyage de Rome pour obtenir lui aussi le titre de roi. Mais il fut condamné pour une affaire de vente d'armes aux Parthes, et lui est en juge. Mais il y a des questions de vente d'armes, c'est pas fini. Ensuite, quand vous lisez Flavius Josèphe, cette politique de l'époque, cette politique de Rome et des Juifs à cette époque-là, alors vous savez, nous n'avons rien à leur envier. Hein. C'est du même temps. Vous allez pas faire la bouche quand vous en voulez. Exilé en Gaule avec sa femme, il fut assigné à résidence à Lyon, tandis que sa fortune passait à Agrippa. Par la suite, Caligula ajouta de nouveaux territoires au royaume de son ami, qui diplomatiquement le dissuada de faire placer sa statue impériale dans le temple de Jérusalem.
Il faut oublier
ce n'est pas la nuit. Sinon, ça allait encore faire là. Mais lui, il perdait sa couronne, évidemment. Lorsque l'empereur périt assassiné à Rome, Agrippa contribua à assurer à Claude le trône impérial. Celui-ci le confirma dans son titre et ses possessions, en y adjoignant en 41 l'ajouté et la sainte. De la sorte, il reconstituait en sa faveur quasiment tout le royaume d'Hérode le Grand. Vous voyez l'attente du peuple des Juifs, c'est de retrouver l'autonomie, hein, de mettre dehors les Romains et de retrouver l'autonomie. Pourquoi ? Parce que Hérode, ici, retrouvait pratiquement toute la possession d'Hérode le Grand. Pourtant, son règne à Jérusalem fut de courte durée, puisqu'il mourut à Césarée. 3 ans plus tard, en 44, il était âgé de 54 ans. Alors, c'est intéressant de savoir ça, parce que ces années 42-44 vont être des années cruciales. L'attente du peuple des Juifs, c'était précisément, on espérait bien qu'on allait retrouver l'autonomie juive et qu'on allait jeter dehors les Romains, puisqu'ils étaient bien vus par les Romains. C'était une occasion sans précédent, et cette occasion ne reparaîtra plus après. Donc vous voyez quand même que cette phrase, il me retrancha de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs, nous fait voir quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, il y a une perspective messianique que probablement Pierre caressait encore. Vous vous rappelez, est-ce maintenant que tu vas établir la royauté en Israël ? Il ne m'appartient pas, répond Jésus, de dire les temps et le temps. Et ayant repris conscience, il vint à la maison de Marie, la mère de Jean qui est surnommée Marthe, à Vien, où il y avait de nombreux se trouvant réunis ensemble et priant, on peut comprendre, c'était la Pâque. Et comme il avait cogné à la porte du porche, une jeune servante du nom de Rodée, Rose, s'avança pour obéir à la voix. Et ayant reconnu la voix de Pierre, à cause de la joie, elle n'ouvrit pas la porte. Et ayant couru à l'intérieur, elle rapporta que Pierre se tenait devant le porche. Et lui dit, mais tu es femme. Et elle affirmait avec force qu'il en était ainsi. Et lui dit, c'est son ange. Or, Pierre demeurait cognant. L'ayant ouvert, ils le virent et furent honteux. Or, leur ayant fait un geste de la main, et se taire sans cesse, il leur raconta comment le Seigneur l'avait emmené dehors de la prison, et il dit, rapportez ceci à Jacques, c'est-à-dire Jacques, le frère du Seigneur, qui est le président de Jérusalem à l'époque, et aux frères. Et étant sorti, ils firent route vers un autre lieu. Ne me demandez pas lequel. Mais on a écrit beaucoup sur cet autre lieu. Est-ce qu'il s'agit de sa mort ? Est-ce qu'il s'agit d'aller à Antioche, etc. Luc ne veut pas nous le dire, il revient vers un autre lieu. Et c'est ici que Pierre pratiquement nous tire sa révérence. On le verra encore revenir au chapitre 15e pour dire une parole prophétique, et puis c'est tout. Les apôtres s'en vont. Et donc, subrepticement, comme ça, on a des groupes qui se passent. Ils s'en vont vers un autre. Et prennent leur place, tout naturellement, ceux qui sont déjà en route depuis longtemps, la génération suivante. Or, comme le jour était arrivé, il n'y avait pas peu de troubles parmi les soldats. Qu'est-ce que Pierre est devenu ? Or, Hérode, l'ayant recherché, n'ayant pas trouvé, ayant instruit une affaire auprès des gardiens, au bon matin, soit conduit. Et étant descendu de Judée, hein, parce que évidemment, quand les gardiens, surtout dans le quartier de haute sécurité, n'ont pas fait leur besoin, c'est eux qui doivent mourir à la place du prisonnier, évidemment. Et étant descendu de Judée, il passait du temps en Césarée. Or, il luttait avec fureur contre Tyriens et Sidoniens, il y a de Tyr et de Sidon, hein, dans le Liban. Et d'un même cœur, il se rendait présent auprès de lui. Il avait des affaires avec les gens de Tyr et de Sidon. Et ayant persuadé Blastos, le préposé de la chambre du roi, le grand chambellan, et de réclamer la paix. Donc voilà les gens de Tyr et de Sidon qui ont été en problème avec Hérode, qui désirent faire la paix. Il y a des choses intéressantes parce que j'ai repris aussi le texte de Flavius Josèphe. Allez voir, hein, qu'est-ce que lui en dit. Pour la raison que leur pays tirait son approvisionnement du domaine royal. Or, au jour réglé, donc au lieu du rendez-vous, à Césarée, Hérode, s'étant habillé d'un habit royal et s'étant assis au tribunal, discourait publiquement à leur adresse. Or, la population donnait de la voix. C'est la voix d'un dieu et non d'un homme, rendez compte. Or, subitement, un ange du Seigneur le frappa, comme il avait frappé Pierre au côté pour le réveiller. Un ange du Seigneur le frappa en échange de ce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu et est devenu rongé des vers.
Il est puni.
Je vais vous dire, parce que ça, c'est intéressant. Donc, Luc vient de parler de la communauté d'Antioche, ravitaillant les frères de Jérusalem menacés de famine. Ici s'affirme la prétention d'Agrippa à ravitailler les villes libres phéniciennes de Tyr et de Sidon. Celles-ci, en effet, tiraient leur subsistance des territoires palestiniens gouvernés par Agrippa. Elle se trouvait, semble-t-il, en désaccord avec lui à propos de taxes douanières, et par représailles, il avait entrepris d'en faire le blocus alimentaire. Comme elles ne pouvaient subsister sans l'apport agricole de l'arrière-pays, elles avaient décidé de faire la paix avec le roi par l'entremise de Blastos, son chambellan. Les détails de cette histoire ne sont pas mentionnés par Flavius Joseph, mais pour l'auteur des actes, elle est significative. Le meurtrier de Jacques ne pourra jouer longtemps le rôle de père unifié des peuples. En accord, cette fois, avec l'historien juif, il nous fait le récit de sa mort à Césarée, survenue au moment où il venait de régler le conflit qu'il opposait aux gens de Tyr et de Sidon. Agrippa ne se cachait pas de vivre à la romaine quand il séjournait dans la ville de César. Il y était venu pour célébrer les Jeux quinquennaux institués par Hérode le Grand, l'honneur d'Auguste. Tout ça, c'est Flavius Josèphe qui nous le raconte, évidemment. Pour la circonstance, il apparut devant le peuple dans une robe tissée d'argent étincelant sous le soleil. Et les flatteurs de l'aduler en l'ovationnant comme un dieu. Puisses-tu nous être propice. Si nous t'avons craint comme un homme jusqu'à présent, nous confessons désormais que tu es, par nature, supérieur aux mortels. Ceci, c'est toujours le Flavius Josèphe. Mais il fut frappé d'un mal soudain, et il mourut quelques jours plus tard, comme emporté par une péritonite et une occlusion intestinale. L'ange du Seigneur, il va lui donner un petit peu. La version de l'événement par Luc diffère peu de celle de Flavius Josèphe. Il tient pourtant à marquer l'opposition entre le destin de Pierre, miraculeusement sauvé des mains du persécuteur, et celui d'Hérode, qui tente de détourner à son profit la gloire de Dieu. Frappé par l'ange du Seigneur, il meurt rongé par les vers de la mort de l'impie, de l'Antiochus IV et du crâne, dans le deuxième livre des Maccabées. Le contraste est saisissant. Pierre, dans l'obscurité du cachot, est invité à s'habiller, tandis qu'Agrippa apparaît en habit de luxe sur son trône royal. Les croyants prient Dieu pour Pierre, tandis que la population flatte le roi, le saluant comme un dieu. La délivrance de Pierre met la communauté dans l'admiration, tandis qu'Hérode fait persécuter les gardes négligents de la prison. L'apôtre libéré se montre simple et discret, tandis que le roi place trône en cherchant le succès. Pierre quitte Jérusalem pour rencontrer le ressuscité, un autre lui, tandis qu'Agrippa rend l'âme en impie dans la ville de l'empereur. Oui, hein, ça c'est le style de Luc qui met en opposition les deux destins. Celui en qui le peuple avait placé son attente messianique, Hérode, celui qu'il louait comme un dieu, n'est plus qu'un cadavre rongé par les vers. Ça, c'est l'art de Luc. Ce récit de Luc rappelle sans doute ses bilans de règne, parfois exprimés sous forme d'oracle, dont le chroniste est coutumier dans son histoire du royaume de Juda. Il mentionne en effet, au terme de chaque règne, les fautes du roi, avec le châtiment qui y est attaché, souvent comme punition d'un intolérable orgueil. Il s'agit soit d'une défaite cuisante, ou d'un succès notoire, soit d'un complot, ou comme dans Acte 12, d'une pathologie incurable amenant la mort.
On demande à quelle page ça se trouve.
Ça se trouve aux pages 393-394. Tel est le sort des tyrans comparé à celui des juifs. Vous voyez, ça nous avons au niveau la répétition de ce qu'il y a dans le livre de la sagesse. Tel est le sort des tyrans comparé à ceux des justes, suivant le livre de la sagesse. Il en est certain que l'on croit vivant et qui en fait sont des meurtriers voués à la mort. Il y en a un que l'on croit mort, or il se trouve bien vivant et il apporte la vie. Et ces contrastes. Un rapprochement significatif de notre péricope avec un passage du livre d'Ézéchiel a été proposé, c'est fort intéressant, hein, c'est la mort du roi de Tyr. La mort du roi de Tyr, au chapitre 28e d'Ézéchiel, est en filigrane de cette mort du roi Hérode. Voilà, nous arrêtons ici, si vous voulez bien. Paglia, lire l'écriture, écouter la parole, la parabole de l'économe infidèle, dans la collection Lire la Bible, numéro 53, apparu en 1980. C'est vrai que c'est l'étude la plus exhaustive et la plus intéressante qui vous montre les différentes ouvertures de la parabole. Une parabole n'a jamais une explication. Détrompons-nous lorsque nous voulons dire « Voilà ce que la parabole veut dire !» La parabole veut dire ce que nous comprenons qu'elle veut dire pour nous. Mais la parabole ne veut pas dire quelque chose. Elle veut inviter à une réflexion et une parabole ne peut en... Donc, d'une parabole, on ne peut découvrir le sens qu'en se mettant ensemble et en la scrutant. Et donc, elle va, pourra être une interpellation qui va dans tel sens, pour une autre, une interpellation qui va dans un autre sens. Mais ne disons jamais, voici l'explication de la parabole. Quand Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, voici l'explication de la parabole, c'est une nouvelle parabole qu'il fait. Et donc, ça n'explique rien. Ça explique. Que nous devons l'expliquer dans notre vie. Mais souvent, on dit, voilà ce que ça veut dire. Non, la parabole suggère un certain nombre de choses. La parabole est toute différente, et ça, Luc nous le montre très bien, notamment dans la quatrième section, la parabole est toute différente d'une rencontre. Une parabole est une ouverture de sens. Et donc, elle peut signifier des choses très diverses, mais dans une ligne bien déterminée. Et chacun y prend ce qu'il peut. comme la parabole de l'écoute, qui est la parabole de la semence, hein, du semeur, comme nous disons parfois. Tandis qu'une rencontre, c'est une question qui est posée à une personne déterminée. Et donc si la parabole a en quelque sorte un sens pour tous, si chacun peut y prendre un sens, la rencontre montre que l'interpellation qui est faite est dirigée vers une personne en particulier. Et je ne suis pas toujours cette personne dont on parle. Je vais donner un exemple très simple, mais qui viendra tout de suite après. À sachez, Jésus ne demande rien. Il ne lui demande pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon. Mais Zachée prend sa responsabilité de donner, de partager ce qu'il a. Tandis qu'au jeune homme riche, Jésus demande quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Je n'en sais rien. Ce qu'on peut tirer de cela, c'est qu'à un tel, Jésus demande de tout lâcher, et à un autre, il ne demande pas de tout lâcher. Mais lui, la personne en question, ici nommément Zachée, découvre ce qu'il doit faire. Alors, il faut quand même, quand nous regardons un texte d'évangile, voir quel est son genre littéraire, et tous les textes d'évangile ne disent pas la même chose, hein, de façon plate et universelle. Ils ont une valeur universelle, cette valeur universelle, et dans l'interpellation, qu'ils font percevoir. Alors maintenant, ce que je voudrais bien faire avec vous, c'est, et de même, assez rapidement, sinon nous n'arrivons pas au bout de l'évangile, au bout du parallélisme, je voudrais quand même bien vous montrer ce qui est indiqué. Je le ferai bien sûr demain matin d'une façon plus large, enfin plus synthétique. Mais ce que je voudrais quand même bien vous montrer, c'est comment, alors que dans l'Évangile, on nous révèle la personne de Jésus, comme fils, et c'est-à-dire qu'on nous révèle à nous-mêmes que nous avons à être les fils dans le fils, la personne de Dieu comme Père, et comme Père qui envoie, et que chacun peut appeler Père, la personne de l'Esprit Saint, que l'on découvre à partir de la prière et qui nous donne, nous avons vu dans le texte, qui nous donne de témoigner et de parler, nous avons une interpellation fondamentale qui nous est donnée dans le jugement. Jésus est celui qui nous juge. Et nous juger, comme je vous le disais ce matin, c'est donner la vie. C'est-à-dire nous donner le principe de la vie, de l'existence, c'est lui-même. Et c'est à partir de la mort, de la découverte de notre mort, c'est-à-dire que nous sommes mortels, et du fait que nous sommes aussi meurtriers, c'est-à-dire qu'il y a en nous un principe mortifère qui fait mourir l'autre, qui fait mourir tout ce qui nous ennuie, c'est à partir de là que nous découvrons la gratuité totale de la grâce de Dieu. De Jésus qui invite au repas, nous découvrons de quel partage il s'agit. Il s'agit d'un partage de gratuité. Nous découvrons de quel amour nous sommes aimés, d'un amour absolument gratuit qui vient nous chercher là où nous sommes, le Père, le bon Père. Il nous fait découvrir que nous avons à vivre cette réalité dans l'aujourd'hui de notre liberté. C'est-à-dire dans la responsabilité prise, la responsabilité vis-à-vis des biens, comme dans le texte de la parabole de l'intendant infidèle, et cet intendant infidèle découvre une réalité profonde. C'est le lien de l'amitié. Ce que, par antitype, le riche ne découvre pas. Le riche ne découvre pas qu'il est proche, que le proche, son proche, c'est le pauvre qui est à sa porte. Il a découvert cela. Et donc, il y a une question fondamentale qui est posée, quelle liberté donnons-nous à l'Esprit Saint dans notre existence? C'est ça qui est posé dans le chapitre 17e. Nous avons à faire notre travail, notre devoir, et après cela, nous n'avons aucun mérite. Nous avons encore tout à recevoir. Donc c'est en gros ce que nous avons vu dans l'évangile de Luc. Maintenant, dans les actes des apôtres, ce que nous voyons les choses de façon très différente. Ce n'est plus une révélation de Jésus. La révélation de Jésus est faite dans sa personne. Dans les actes des apôtres, au contraire, nous voyons ce qui est révélé de Jésus par les témoins. De Jésus et du Père et de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qui est révélé dans l'œuvre de la grâce? C'est la réalité de la parole qui conforme les chrétiens, puisqu'elle les fait chrétiens, qui conforme au Christ les chrétiens. Donc cette parole est agissante, elle est une œuvre de la grâce. Bon, qu'est-ce que nous découvrons ici? Pourquoi ai-je mis Dieu? Donc ici, il faudrait dire la parole. La parole égale œuvre de la grâce. La parole, c'est Jésus. Quand nous parlons de la parole, c'est Jésus vivant dont nous témoignons. C'est le témoignage de la présence du ressuscité dans nos vies. Quand je dis Dieu, Dieu est en train de faire deux choses. Dieu par l'ange libère, il libère Pierre. Il libère Pierre de sa prison et de l'attente du peuple des Juifs. C'est-à-dire, il libère Pierre d'une attente qui serait encore une attente messianique, bien sûr, mais une attente encore trop humaine. Et la liberté qui lui est donnée, c'est une liberté pour aller vers son lieu propre. C'est-à-dire pour accepter sa destinée jusqu'au bout. Dieu libère Pierre, et Dieu, c'est exprimé comme ça, c'est l'ange du Seigneur, et il libère Pierre au moment de la Pâque, au moment de la libération du peuple juif. C'est intéressant de le noter, comme je voulais fait percevoir tout à l'heure. Il libère Pierre, et en même temps, il tue Hérode, si on peut regarder les choses de cette manière un peu abrupte. Ça veut dire qu'il est le juge des vivants et des morts. Il fait mourir, je me fais mourir. Enfin, grâce à toujours grâce de mourir. De mourir Hérode. C'est une manière, évidemment, c'est une manière un peu abrupte de nous dire qu'il est juge des vivants et des morts. C'est-à-dire que c'est à partir de lui que les destinées trouvent leur sens. Voilà, je vous renvoie encore aux commentaires, je n'ai pas le temps de m'appesantir sur cela, je veux simplement essayer de vous montrer qu'il y a un parallélisme, pas une allégorie, un parallélisme. L'œuvre de la parole, mais c'est Dieu qui a le dessein sur l'histoire du monde, et le schéma qui est repris dans ce texte, c'est évidemment celui du livre de la sagesse, notamment chapitre 3 à 5, où on voit la manière de vivre des justes et la manière de vivre de l'impie. Et c'est toute cette thématique du livre de la sagesse qui est reprise dans ce chapitre 12, qui nous a ramenés à Jérusalem d'une part et à Césarée de l'autre. Alors, quand on parle de Jacques, parce que la question s'est posée, le Jacques que l'on fait périr au chapitre 12, verset 2, Hérode. Ce Jacques, le frère de Jean, c'est le fils de Zébédée, celui qu'on appelle généralement Jacques le Majeur. Il y a encore un autre Jacques le Mineur, fils d'Alphée. Et puis, il y a celui qui est évêque de Jérusalem et qui n'est pas un apôtre, et que l'on appelle généralement Jacques le frère du Seigneur. Troisième Jacques. Celui-là n'est pas apôtre, il est de la parenté de Jésus, mais on ne sait pas à quel degré. Mais voilà les personnages que l'on pourrait confondre. Donc, ce qu'ici, ce qu'on veut montrer, c'est que celui qui est prisonnier est libéré, et celui qui se croyait libre et comme un dieu meurt. Le persécuteur meurt. Donc, Dieu a un dessein de salut à travers l'histoire des hommes. Et ce dessein de salut passe à travers celui qui rétribue les bons et les mauvais, C'est le Dieu juste qui est mis en évidence, comme dans le livre de la sagesse. Et puis, on vous dit, la parole de Dieu croissait et se multipliait, et Barnabas et Shaul retournaient, ayant accompli le service, comme des services de l'unité, en faveur de Jérusalem, ayant emmené avec eux Jean qui fut surnommé Marc. Je suis à la fin du chapitre 12. Le chapitre 13 va manifester l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est en effet sous la mouvance de l'Esprit-Saint qu'on est choisi et qu'on est envoyé. Et pourquoi parle-t-on d'Esprit-Saint ici ? Il y a un envoi et il y a un discernement. Effectivement, ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc ici, la parole, c'est sur ce qu'il s'agit, Jésus vivant. Le Père, ici, le Père est considéré comme Dieu qui est maître de l'histoire, le juge des vivants et des morts. L'Esprit Saint est celui qui fait découvrir et discerner l'œuvre de Dieu. Il y avait Antioche, partout dans l'Église, et ici il s'agit de l'Église qui est Antioche, des prophètes et des didascales. Les didascales, ce sont des enseignants. Barnabas, ainsi que Siméon, qui est appelé Niger, le Noir, Lucius de Cyrène, Minaret, qui fut élevé avec Hérode, le Tétrarque, le Chaldé. C'est toujours intéressant chez Luc de voir les noms propres, parce qu'il ne dit pas n'importe quoi à propos de n'importe qui. Donc ces noms propres signifient de nouveau l'enracinement dans l'histoire. Or, comme il faisait le service liturgique pour le Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit Saint dit, si Dieu, le Père, est le maître de l'histoire, c'est à travers l'action de l'Esprit Saint qu'il faut discerner. Mettez à part pour moi Barnabas et Shaul en vue de l'œuvre, le terme est repris, pour laquelle je me trouve les avoir appelés. Et en jeûné, imposer les mains, il les congédiait. Quant à eux donc, expédiés par le Saint-Esprit, les messageries du Saint-Esprit, ils descendirent à ceux-ci, puis s'embarquèrent au Chypre, ils arrivent à Salamine, et ils annonçaient la parole de Dieu. L'Esprit Saint fait parler.
Il ne rate pas de signaler qu'il y avait des gens importants.
Ah oui.
Toujours. Ficard dit bien heureux les pauvres, c'est très équilibré.
D'accord. Si on pense que les gens importants ne peuvent pas être les pauvres. Qu'est-ce que c'est que les pauvres ? Or, ayant traversé l'île entière, le Chypre, ils trouvèrent, comme à Samarie, un certain homme, un mage, faux prophète juif, s'il vous plaît, dont le nom était Bar-Jésus, fils de Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Ah, tiens, intéressant de savoir qu'il y a un Paulus là. Alors, on va voir que Paul va reprendre son nom de Paulus, qui veut dire qu'il appartient à une des grandes familles du Latium. Un homme compréhensif, ayant appelé Barnabas et Shaul, rechercha à entendre la parole de Dieu. Et l'accent qui est mis constamment sur cette parole de Dieu. Or le mage, Elimas, c'est ainsi que son nom se traduit, Elimas veut dire le faiseur de choses cachées.
Il avait nom juif et nom grec.
Non, oui, c'est un nom juif. Eluma, s'opposait à eux, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Or Shaul, qui est aussi Paul, il attend d'avoir rencontré Sergius Paulus pour dire le Paulus qui veut dire le petit, quelque chose. Qui est aussi Paul, ayant été rempli d'Esprit Saint, encore une fois, vous voyez que l'Esprit Saint intervient bien ici, ayant fixé les yeux sur lui, il dit, ô homme plein de toute ruse, de toute fraude, fils du diable, faut bien qu'il lui révèle qui il est, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir sans cesse les chemins bien droits du Seigneur ? Et maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, ne regardant pas le soleil jusqu'à un moment. Lui, il a été aveugle aussi, hein, c'est ce que c'est. Donc, il peut partager sa grâce. On subitement tomba sur lui, brouillard et ténèbres, et tournoyant, il cherchait les meneurs par la main, il cherchait quelqu'un qui puisse le mener, le conduire. Alors le proconsul, ayant vu ce qui se trouvait d'être arrivé, crut, étant stupéfait de l'enseignement du Seigneur. Ayant été conduit au large de Paphos, ceux de l'entourage de Paul vers Perge de Pamphylie, or Jean ayant battu en retraite, Jean-Marc, on ne dit pas pourquoi, retourna à Jérusalem. Donc voilà nos deux hommes qui sont envoyés. Mais vous savez, ce qui attend les envoyés, ce n'est pas évident. Nous avons vu qu'il y avait un jugement. Nous avons vu que c'était face à la mort que le destin de tout homme se révélait. Eh bien, effectivement, nous avons ici quelque chose qui est important. C'est le passage qui touche Antioche de Pisidie. Il s'appelle Yalbach maintenant. Et il faut quand même que je prenne le texte, même si ça prend peut-être un peu de temps. Oui. C'est quand même un peu, c'est quand même assez important. Et d'après moi, cela fait pendant au chapitre 12 et au chapitre 13, parce que le porteur de la parole, le témoin, se trouve affronté à la mort.
Dans Luc. 12-13 dans Luc.
12-13 dans Luc. Et ici, nous sommes donc au chapitre 13. Et début de 14 dans les actes des apôtres. Or, eux, ayant traversé le Pergue, ils se rendirent à Antioche de Pisidie, qui est à peu près à mi-chemin, hein, en passant le Taurus, entre Pergue